Bonjour tout le monde, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à Bernard et puis nous autres. Je suis très contente d'être là. Donc moi, je vais à la fois ce dont je vais parler, ce sera à la fois un témoignage et puis une réflexion sur ça marche?
Non, c'est juste que le son.
Une réflexion sur ces questions de former, déformer, reformer. Donc j'ai un parcours très singulier. Parce que ça m'a, qui m'a du coup demandé de réinventer complètement mon processus de création, notamment à une époque où faire se rencontrer art et science en France avait une connotation un peu suspecte pour les institutions scientifiques comme pour les institutions du spectacle vivant. C'est pourquoi je vais rapidement développer ce processus et comment il m'a fait réinventer mon processus de création, envisager la formation à la fois des artistes interprètes et des artistes en formation et mettre en place différentes formes de représentation. Donc, après avoir fait un premier vol parabolique en 1990, donc avec la recherche spatiale en absence de gravité, donc ces vols sont réservés à l'entraînement des astronautes et aux chercheurs qui font des expériences en absence de gravité. Mon travail artistique a été complètement bouleversé puisque par cette expérience, c'est-à-dire plus rien ne pouvait être pareil, ça a tout changé. Donc j'avais tout à reconsidérer. J'étais pionnière, donc très seule, et j'ai cherché des appuis pour repenser le mouvement sur Terre. C'est donc par nécessité que j'ai été à la rencontre de la science, du milieu scientifique, la pensée scientifique du spatial. Le scientifique, c'est la pensée du spatial. Donc de toute façon, si je voulais continuer à travailler ou à continuer à faire d'autres vols, il fallait que je puisse trouver une communication avec ce milieu. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à expérimenter, chercher le mouvement en absence de gravité en m'inspirant du travail scientifique, notamment très souvent, au début surtout en termes de neurophysiologie, puis après j'ai ouvert ça à d'autres sciences. Donc, j'ai fait à ce jour une vingtaine de vols paraboliques et j'ai emmené une vingtaine aussi de danseurs et circassiens en vol. Donc, à ce moment-là, il y a deux questions fondamentales qui se sont posées. Dans le sens, moi, j'ai pris dans l'autre sens, c'était se déformer, puisqu'il fallait que je repense tout. C'est-à-dire comment mettre en situation des danseurs ou des circassiens pour aborder cette expérience de perte de repère, où la sensation d'être l'espace, on a la sensation d'être l'espace, où instantanément les limites du corps n'existent plus, où l'on ne tombe plus, et où certains muscles fléchisseurs deviennent extenseurs. Donc, que des sensations paradoxales qui nécessitent de s'ancrer dans son corps en interne, accepter le vertige intérieur et recréer des limites pour qu'existe un échange entre le dedans et le dehors. Donc, je me suis inspirée de la recherche scientifique, comme je vous le disais, et j'ai proposé dans mon processus de création des ateliers d'expérimentation dans des milieux analogues, comme les scientifiques font à partir de l'expérimentation. Donc, les milieux analogues, pour moi, ça a été de plonger les danseurs ou les circassiens dans l'eau. Ça a été, parce que je mélange tout de suite les deux, mais c'est ça qui a fait que j'ai rencontré le cirque, parce que j'avais besoin d'utiliser le volume du plateau, pas uniquement le sol avec les danseurs. Donc voilà, c'était le cirque devenait une sorte de nécessité. Ceci dit, l'agrès m'intéressait pas beaucoup, c'était le circassien ou les circassiennes qui m'intéressaient, leur corps. C'est là où, en fait, j'ai repensé, j'ai réfléchi à des conditions d'immersion. Puisque quand on est en absence de gravité, on est soutenu, enfin, on ne tombe pas, quoi. Donc, c'est là où j'ai retravaillé toute la question de l'image, avec toute l'évolution des techniques de l'image, et aussi avec des capteurs sensoriels, donc les nouvelles technologies, pour recréer des univers immersifs. L'objectif, c'était d'immerger les interprètes au sein d'un environnement inhabituel, et dans lequel il faut à la fois qu'ils s'abandonnent, et à la fois qu'ils prennent conscience des possibles que ce milieu leur apporte pour le moment. C'est donc, comme tu disais tout à l'heure, une forme de lâcher prise, mais pour permettre de trouver des solutions singulières à chacun. Donc, très justement, chacun de ces interprètes venait, chacun, chacune de ces interprètes venait avec une histoire différente. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est justement la singularité de ça. Comment, en fait, ils trouvaient des solutions auxquels j'aurais jamais pensé, et qui étaient leur parcours, leur histoire, leurs sensations, leur vécu. Donc après, l'autre question dans se déformer, c'est aussi comment traduire sur scène la transmission de ces expériences au public. Alors, d'abord, évidemment, par le mouvement et les états de corps des danseurs, danseuses ou circassiennes, parce que la désincarnation, en fait, ils vivent une sorte de désincarnation passagère en apesanteur, et ces désincarnations interrogent nos stratégies comportementales et l'influence du cerveau sur nos équilibres. Donc, ces questionnements ouvrent un champ d'exploration pour une autre lecture du mouvement. Ils m'ont permis de revisiter mon écriture chorégraphique en reliant les mouvements fondamentaux de la danse à des expérimentations scientifiques sur la perception. Ce qui est impossible sur Terre reste possible dans la mémoire sensorielle. Et c'est ça qu'en fait j'ai voulu travailler dans le corps des interprètes. C'est eux qui vont transmettre par empathie une atmosphère onirique liée à l'absence de gravité. Donc mon écriture chorégraphique, elle pose la question de compenser la force de gravité sur Terre, et ça m'amène à concevoir des créations pluridisciplinaires au croisement de la danse, des arts plastiques, du cirque, des nouvelles technologies et des sciences. Donc j'ai mis en place des univers scéniques qui utilisent l'image, l'image des interprètes en vol, l'image des interprètes dans l'eau, grande image, l'image qui se déplace, tout en évolution, avec l'évolution des techniques de l'image, la spatialisation du son et les nouvelles technologies avec des capteurs placés sur le corps des interprètes qui enregistrent les déplacements horizontaux et surtout l'électricité produite par le cerveau pour la force musculaire. Ce qui m'intéressait beaucoup pour les circassiens et surtout les aériens, c'est-à-dire dans cette manière de prendre l'appui de la main et que ça ne se bloque pas au niveau de l'épaule, mais que ça prenne le corps en toute sa globalité pour éviter ce qu'on appelle, je me souviens du nom, mais quand il tétanise, voilà. Ça rejoint un peu tout le travail dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Donc après, la question, elle a été pour moi, cette autre lecture du mouvement m'a amené aussi à travailler avec des écoles de cirque. Alors, notamment sur le vertige intérieur. En effet, comme je le disais tout à l'heure, je souhaitais qu'on oublie l'agrès au profit du corps de l'aérien. Donc, avec les étudiants, j'ai revisité les actions de chuter ou voler, en mettant en avant l'importance du pré-mouvement, en évoquant l'existence d'un vol intérieur. J'ai reconsidéré le rapport à l'espace, en évoquant l'immersion dans le plateau. Souvent, les circassiens sont très liés à leurs agrès, et ça limite leur espace. J'ai revisité les appuis et la puissance musculaire nécessaire à ces appuis pour trouver des chemins de liberté dans les articulations, pour rendre visible, lisible la durée du mouvement et sa trajectoire à l'intérieur du corps. L'objectif était d'envisager un équilibre entre la réalité de poids sur Terre et l'imaginaire qui n'a pas de poids. Cette pratique induit un travail extrêmement précis sur la circulation du mouvement à l'intérieur du corps et sur la qualité des appuis. La précision du passage d'un mouvement à un autre demande de prendre du temps. Ça crée un ralenti, mais pas un ralentissement. Juste prendre le temps nécessaire à la perception de là où on est, dans son corps et dans l'espace, avant d'aborder le mouvement suivant. Souvent, les étudiants avaient du mal à supporter cela. Vu qu'ils devaient aussi aboutir à l'excellence technique dans leur parcours quand on est dans une école de cirque. Mais la plupart d'entre eux sont revenus me voir plus tard pour me dire comment ces moments, qui étaient un peu pénibles à vivre avec moi, finalement leur avaient vraiment servi dans leur parcours professionnel. L'autre chose pour la question de la formation, c'était l'intégration à l'évolution des techniques de scène. En cohérence avec mon parcours artistique, j'ai voulu partager et réfléchir justement au rôle de l'image, comme je le disais, du son spatialisé, des nouvelles technologies qui permettent d'envisager et l'apprentissage et la forme spectaculaire que l'on veut montrer au public. Donc c'est ainsi que j'ai mis en place un processus de recherche, bon pas toute seule, hein, mais qui s'appelle Le Corps Infini, qui a été une expérience extrêmement forte sur 3 ans. Ça a été mis en place pour rendre accessible et compréhensible à des jeunes artistes, à des jeunes chercheurs, cette recherche qui repousse les limites organiques et physiques du corps en minimisant la force de la gravité. Donc le corps infini, ça a fait l'objet, je vous le détaille parce que ça pourrait servir, ça a fait l'objet d'un projet LABEX Art H2H, alors je ne sais pas où ça en est ça, à Paris 8, qui a réuni autour de mon travail, il y a ma compagnie qui est production, l'Académie Fratellini, l'ENS Louis Lumière, l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, le département textile et matière, et deux laboratoires de Paris 8, le CICM Musidance sur le son spatialisé et le laboratoire INREV sur les dispositifs de réalité virtuelle. Donc j'ai réuni les directrices des laboratoires et les professeurs des écoles concernées pour développer une expérimentation formelle et technique collective articulant la recherche à la formation. Nous avons créé les conditions d'une rencontre entre les disciplines du cirque, de la danse, de l'image, du son spatialisé et de la réalité virtuelle, en prenant comme vecteur commun le corps en suspension. L'objectif a été de permettre, grâce à l'expérience réflexive entre les différents médias et la mutualisation des savoirs, une expérimentation par l'action qui soit productrice de connaissances. Nous avons collaboré pendant 3 ans avec des apprentis et des étudiants accompagnés de leurs professeurs et des directrices des laboratoires pour échanger et expérimenter les paradoxes liés aux mécanismes de perception ressentis en apesanteur. Chaque année, un temps de réflexion théorique ouvert à d'autres intervenants et à tous les participants a été mis en place lors d'un séminaire. Un temps d'expérimentation qu'on a appelé les plateaux expérimentaux a ensuite eu lieu et a abouti à des présentations de la recherche. Donc ça, c'était très important, les plateaux expérimentaux, parce qu'on était tous là, étudiants, professeurs, directeurs de labo, à voir l'évolution progressive des apprentis que je faisais travailler sur mes techniques et que les gens de l'image, les gens du son, les gens des technologies, les gens de puissent voir, comprendre, voir l'évolution du corps. Parce que c'est... On a tous des images de ce que c'est que la danse ou ce que c'est que le beau mouvement, mais ce que je voulais, c'est que tout le monde participe à cette construction interne de la qualité d'un mouvement. Et donc, c'est ça les plateaux expérimentaux et qui nous permettaient après de pouvoir réfléchir à ce qui se passait. Donc, pour moi, c'était l'acte de déconstruire pour reconstruire et ouvrir un processus de création et aussi celui de créer des contraintes pour inventer des libertés. Donc c'est un peu cette question de la formation. Et maintenant, pour la dernière partie, je dirais se reformer, c'est aussi imaginer des dispositifs. C'est-à-dire ceux que j'ai mis en place, ils sont avérés positifs. Je pense que l'excellence et la virtuosité technique est importante et nécessaire dans le parcours des étudiants d'école supérieure, mais il faut juste éviter qu'elle entraîne un manque d'ouverture. L'excellence est paradoxale. C'est une contrainte dans laquelle il faut trouver des espaces de liberté. Elle peut permettre de déconstruire pour reconstruire. Donc, de mon point de vue, il faut prévoir un temps dans la formation pour l'ouverture vers d'autres univers. C'est important de mettre en place un dispositif de recherche-création, ce qui implique aussi, pour les chorégraphes ou les metteurs en piste, de définir les ressorts de leur écriture. Il faudrait presque dire que, avant de travailler avec un nouveau ou une nouvelle chorégraphe ou metteuse en piste, il y aurait peut-être un temps de recherche pour que ces personnes positionnent bien leur écriture et permettent en fait aux étudiants, aux artistes interprètes, de comprendre les mécanismes pour revenir à ce que tu disais, pour pas se faire mal. Se reformer, c'est aussi imaginer des présentations ouvertes au public. Donc l'expérience du corps infini, pour moi, a donné naissance à une nouvelle création qui s'appelle Écoute Expansion, essai sur le cirque et les nouvelles technologies. Et d'où l'idée, c'était à partir d'une proposition expérimentale, je me suis engagée avec une équipe pluridisciplinaire, arts et sciences humaines, dans une forme singulière de transmission d'une œuvre au public, où l'on expliquerait les enjeux techniques d'une œuvre du spectacle vivant. Ça, c'était pour moi très important sur la question des technologies. Parce qu'on pense souvent que les technologies sont magiques et qu'elles créent tout et on comprend absolument rien de ce qui s'y passe. Et donc, je trouve que c'est très important de donner les ressorts pour comprendre comment les technologies vont nous permettre à un moment de faire avancer exactement comme tu racontais avec le cheval, c'est-à-dire ça va créer un milieu immersif, ça va permettre peut-être d'oublier la chute, ça va permettre de soutenir, comme le son spatialisé devient vraiment quelque chose qui soutient, un peu comme le rythme soutient le mouvement. Donc c'est une forme de spectacle, de forme spectaculaire qui me semble important actuellement parce que le public attend beaucoup de choses magiques, mais sans réfléchir à ce que ça crée et peut-être ce que ça pourrait leur permettre de penser eux par rapport à ça. Donc dans ce fait, voilà. Donc je dirais que bon, je vais arrêter. Voilà.
Ici. Oui, il est bon aussi, vidéo. Ben oui.
Alors, moi, je dirais, alors si je me souviens de ta question exactement, la compagnie, elle existe depuis hein, mes premiers vols, mon premier vol, c'était en 90, je crois, 1990. Donc, ça a mis du temps quand même à tout ça, à la curiosité. Enfin, en même temps, j'étais danseuse, je faisais des choses, quoi, mais. Et en fait, je dirais que là, c'est intéressant aussi, comme j'étais dans le milieu scientifique, qu'en fait, on m'écoutait pas vraiment, à vrai dire. Dans le milieu artistique, on disait, mais c'est une scientifique. Donc, c'était un peu compliqué. Et j'ai compris qu'à un moment, si je n'avais pas un niveau scientifique important, on m'écouterait pas du tout. Donc, j'ai passé une thèse. Voilà, à Paris 8, en esthétique, sciences et technologies des arts, avec Jean-Marie Pradier comme directeur de recherche, qui est un anthropologue. Et en fait, j'en parlais, je sais plus avec qui, c'est toi, la thèse, mine de rien. Donc j'ai eu vraiment une traversée du désert quand même, faut reconnaître, hein, où je savais pas, est-ce que j'allais devenir astronaute. Ouais, vraiment, ça s'est vraiment posé, mais il y avait eu Challenger, donc j'étais foutue. Challenger, c'est quand l'institutrice est morte, là, enfin que la fusée a explosé. Donc voilà, donc j'ai quand même. Et en fait, la thèse a été vraiment un tremplin. C'est-à-dire que c'est vraiment intéressant parce que c'était vraiment la pensée et le corps. Et ça m'a obligée à mettre des mots sur ce que j'avais vécu. Et donc, du coup, à commencer à formuler quelque chose. Et c'est vraiment dans les années 2000, donc j'ai pu refaire des vols. Enfin, je ne sais plus trop tout comment ça s'est passé, mais. Et c'est là où je suis allée vers le cirque. Grâce à Jean Vinet, qui était directeur, voilà, ouais, directeur des études au CNAC. Qui m'a fait rencontrer. Alors après, c'est toujours des rencontres humaines, hein. Donc à chaque fois, c'est des rencontres avec des circassiens ou des circassiennes très fortes. C'est pour ça que je parlais de l'excellence, c'est-à-dire c'est des gens qui sont arrivés à un niveau très fort et qui ont envie de quelque chose d'autre. Il faut quand même aller là-dedans, quoi, hein. Et donc là, c'était la rencontre avec Mathurin Bolz, avec Jörg Müller, avec Chloé Molia. À chaque fois, c'est des agrès différents et des personnes qui avaient vraiment envie d'aller ailleurs, quoi. Et donc c'est comme ça qu'on a vraiment développé avec la compagnie, avec eux, puis que je les ai emmenés en vol. Donc il s'est passé beaucoup de choses absolument magnifiques. Et petit à petit, voilà, on a créé tous les différents spectacles. La question de la transmission, elle est arrivée assez vite, mais c'est compliqué, comme je disais tout à l'heure. Mon travail, il est très très dans le détail, et donc il faut supporter l'idée du détail pour progresser, pour aller plus loin. Donc quand on est dans une création, finalement, les interprètes, ils acceptent assez bien la question du détail, encore qu'il faut former quand même une dynamique. Mais moi, avec mes histoires de les plonger dans l'eau, de les emmener en vol, il y avait quand même quelque chose d'un peu plus ludique que le détail vraiment du travail. Donc, ça a permis d'aller assez loin dans le travail de l'écriture chorégraphique. Et ça m'a aidé aussi, moi, à la préciser, bien sûr. C'est jamais des choses qui se font seules. Et maintenant, je suis beaucoup plus dans la transmission. Maintenant, j'ai décidé de plus monter de production parce que j'ai à chaque fois déplacé des montagnes et que c'est épuisant à force. Parce qu'en fait, j'étais quand même une compagnie, quoi, hein. Donc, comme vous, de chacun de notre côté, on bricole comme on peut. Et donc maintenant, j'accompagne des créations. des créations de jeunes créateurs, de jeunes circassiens, de, où en fait je suis regard extérieur, dramaturge. Voilà, donc ça c'est vraiment actuellement dans ma compagnie, c'est ça qui se passe. Et puis je fais tout un travail aussi. Alors ça c'est intéressant aussi, mais bon c'est très quelque chose encore à développer. C'est depuis une quarantaine d'années, je travaille dans le milieu psychiatrique. Et je fais danser des patients. Et ça, c'est un travail, c'est un engagement. Et donc, depuis longtemps, et ça, je continue avec un lieu de danse qui est la briqueterie et en lien avec l'hôpital de Villejuif. Donc, voilà. Donc, j'ai un parcours. Mais il y a une cohérence très, très grande dans la conscience du corps de quelqu'un qui a des problèmes mentaux et le fait d'avoir été en apesanteur et d'avoir été complètement désincarné. Et de pouvoir imaginer que on a des corps complètement différents, suivant aussi comment on voit les choses, comment on vit les choses, comment. Donc il y a une sorte de cohérence, voilà, qui peut-être a fait que j'ai pu continuer à mener ce travail pendant très longtemps. Je crois que voilà. Maintenant, je rejoins complètement ma Chloé, c'est-à-dire que et j'ai tenté de le faire à plusieurs reprises, d'essayer de créer une sorte de structure. Entre guillemets, qui serait ni de la recherche, ni de la danse ou du cirque, et qui permettrait de réunir ça. J'ai fait des expériences avec le milieu scientifique, mais du coup, il y avait une sorte de prise de pouvoir, entre guillemets, parce que, bon voilà, c'est compliqué toutes ces histoires, mais prise de pouvoir parce que mieux organiser le milieu de la recherche en sciences que nous, le milieu de la recherche dans les arts. Donc voilà, un peu de difficulté d'égalité de lieu. Et ben voilà, je serai toujours... si vous avez des idées, je suis partante pour participer, pour aider au montage d'un lieu qui permettrait cette rencontre que je crois extrêmement riche et très importante dans les technologies, parce que la question des technologies, c'est de savoir pourquoi on les utilise. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est le ressort du travail artistique qui utilisent telle technologie plutôt que telle autre. Et je pense que la présence des artistes est fondamentale pour enfin, comme avec les techniciens, hein, mais que ça se construit en même temps, comme le corps des interprètes se construit, à mon avis, en même temps dans la technicité comme dans l'intentionnalité et dans le ressenti. Et c'est pareil, je pense, pour les techniciens, les nouvelles technologies. Il faut à la fois travailler la technique et avoir un sens artistique, entre guillemets. Voilà, j'arrête de parler parce que je peux parler longtemps ou m'arrêter.
Je pense.
Bonjour, merci beaucoup pour ces interventions. Donc, j'ai deux petites questions pour Kitsou Dubois et ma Chloé. La première, Kitsou, c'est comment dans vos parcours de danseuse est survenu ce premier vom parabolique en 1990, voilà. Comment c'est arrivé, voilà, dans votre vie, dans votre parcours de danseuse? Et ma Chloé, c'est... cette rencontre avec Françoise et Dominique Dupuis que vous avez évoquée, quelle était dans quel contexte ça s'est passé et puis quelle était la nature du dialogue que vous avez tissé avec ces deux figures de la danse en France. Yes.
Donc je commence, je vais essayer de faire court. Du coup, moi je fais partie de la génération des danseurs qui se posaient un peu la question de quel plateau pour la danse, pas obligatoirement le plateau du théâtre. Donc, quand j'étais jeune danseuse, j'ai fait des spectacles sur les façades d'immeubles, sur l'eau, enfin, dans des usines, etc. Donc, j'étais très intéressée par cette question de la perception du corps dans un environnement, à la fois pour celui qui regarde et à la fois pour la personne qui danse, où ça change tout chaque fois. Et donc, j'ai travaillé avec des architectes. J'étais vraiment sur cette question du lieu, quoi. Et ces architectes, il s'est trouvé qu'il y avait un groupe d'architectes qui avait un projet d'habitabilité sur la station Columbus. Et un jour, ils m'ont demandé de venir à une de leurs réunions. Puisque j'étais danseuse, j'avais des problèmes d'ergonomie. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai compris que les astronautes, à un moment du vol, tous, à un moment, ils savent plus très bien où est leur tête et leurs pieds. Après, ça va très vite, hein. Et la plasticité humaine est très importante, ça va vite, ils seraient à Dart. Et donc, j'ai fait un projet d'entraînement des astronautes à partir des techniques de danse. Grâce à eux, j'ai rencontré un astronaute. Les astronautes sont comme les pilotes, c'est pas des gens qui disent « Ouais, génial, on va boire un pot, on va discuter et tout. Voilà. » Voilà. Mais j'ai cru comprendre que je tapais juste. Et donc, j'ai répondu à une bourse de la Villa Médicis hors les murs pour aller à la NASA, à Houston. Ce que j'ai eu. Mais en fait, il y a des choses qui arrivent comme ça. Et donc à la NASA, évidemment, à l'époque, ben donc je sais plus, tu vois, c'est les années, j'étais française, femme et danseuse. On n'a pas du tout déroulé le tapis rouge. En fait, c'est facile dans le milieu spatial. Quand on ne veut pas vous donner une information, on dit que c'est secret militaire. Voilà, comme ça, c'est simple. Et donc, en fait, ceux qui m'ont ouvert la porte, c'est les scientifiques. Voilà. Et donc, j'ai commencé à faire des expérimentations avec les scientifiques là-bas et tout. Puis après, je suis revenue en France et puis après... Voilà. Je vous passe les détails. Je n'étais pas prévue du tout dans le système spatial. Bon.
Si. Merci et vos exposés très inspirants. J'avais une question pour Kitsou à laquelle ils avaient déjà commencé à répondre sur les vols paraboliques, cette fois-ci sur l'aspect plus scientifique. Donc vous avez eu accès à toute une série de vols paraboliques, ce qui veut dire que les scientifiques et j'imagine aussi les techniciens du CNES vous ont quand même ouvert les portes à
ça. Ah mais complètement.
Parce que vous disiez au départ que les scientifiques vous avez un peu considéré comme ils ont eu une espèce curieuse. En fait. Je voulais vous demander si vous inversez le point de vue, on comprend ce que les vols vous ont apporté en termes de pratique, en termes d'expérience. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez apporté aux scientifiques pour qu'ils répètent votre accueil? Parce qu'avoir accès à un vol parabolique, ce n'est pas donné aux premiers passants. Qu'est-ce que vous leur avez apporté pour qu'ils s'intéressent autant à vos expériences que vos posiers?
Alors, tout est très relatif, l'intérêt qu'il portait à mes expériences. Mais par contre, donc, j'ai dit que, si tu vois, c'est un parcours, pour le coup, on parlait du temps, qui s'étire dans le temps, hein, quand même. Donc, il y a eu la période où on me regardait un peu comme un extraterrestre, chez les scientifiques. Et puis après, j'ai eu ma thèse. Donc après, c'est plus du tout la même chose, quand même. Hein. Donc voilà, donc il y a eu toutes ces époques-là. Donc non, j'ai été à la NASA, j'ai été reçue par les scientifiques et puis après le CNES m'a aidée. Enfin non. Mais ce qui a été très 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 important, c'est qu'au sein du CNES, ils ont créé un département qui s'appelle l'Observatoire de l'espace du CNES. Et la question de ce département, c'est comment la vision du spatial, comment l'existence du spatial change la culture. Voilà, donc c'est super chouette. Et donc après, ça a été un département qui m'a aidée. J'étais en résidence. Et donc avec eux, ce qui s'est passé, par exemple, on a fait quelque chose d'assez incroyable à la Villette. J'étais en résidence à la Villette. Et on a réuni, donc ils m'ont fait rencontrer des scientifiques, mais plus des sciences dures, donc pas la neurophysiologie, les sciences du mouvement des liquides et des solides. Moi, après, comme j'avais travaillé dans un labo chez Berthoz, j'avais suivi une expérimentation de A à Z. J'étais un peu désinhibée par rapport à ça et je me permettais de me raconter des choses sur des expériences scientifiques. Je me permettais vraiment de partir loin, ce qui quand même m'a aidée dans les collaborations. Et en fait, je pense que les scientifiques avec lesquels j'ai travaillé, entre autres sur ce spectacle, qui était, comment il s'appelait ? Je crois que c'était Traversé, bon, je ne sais plus. Et c'est-à-dire que les scientifiques de ces laboratoires sont venus nous voir travailler. Moi, je suis allée les rencontrer dans les laboratoires. Donc, c'est à Toulouse. Et je me souviens plus, c'est dans mon bouquin, les solides, je ne sais plus dans quel labo c'était. Et donc, j'ai été les voir travailler. Ils m'ont raconté leur histoire. Moi, je m'en suis racontée dessus. Et ensuite, ils sont venus nous voir sur les répétitions. Et ensuite, on a fait une rencontre à la Villette avec tous ces chercheurs qui sont venus voir le spectacle. Et donc, déjà, c'était une grande chose parce que souvent, les chercheurs, ils sont super éduqués et tout ça, mais ils font pas le lien entre leur recherche et les spectacles qu'ils vont voir. Ils sont souvent très culturellement éduqués. Et donc là, ça a permis de faire le lien. Et ensuite, on a fait une rencontre sur des chercheurs en sciences dures qui, auprès d'artistes, on a fait une rencontre pour que des artistes viennent écouter le travail que faisaient ces chercheurs et essayer de faire des partenariats. Voilà. Ça, on l'a fait avec l'Observatoire de l'espace du CNES, avec la Villette. Et ça a été, je dirais, le retour. Mais après, c'est toutes ces petites expériences importantes quand même, mais qu'on a eu du mal à faire des petits avec, quoi. C'est compliqué et bon, voilà. À chaque fois, c'est des tentatives. Et donc, moi, ce que je leur ai amené, c'est mes pratiques sont pas intervenues dans l'entraînement des astronautes parce que là, il faut passer à la Russie ou à la NASA. Donc, là, voilà. Et je pense que ce que j'ai pu amener, et grâce aussi, mais évidemment pas toute seule, avec le département, c'est que petit à petit, moi au début, quand je faisais un vol, c'était pour intervenir sur l'entraînement des astronautes. Ensuite, j'ai pu petit à petit, la question de l'artistique est arrivée. C'était sur des campagnes de vol scientifiques. Donc c'est pour ça, non, c'est pas, j'ai rien contre le scientifique, au contraire. Il y a vraiment de l'ouverture, mais il y a aussi de la fermeture. Il y a les deux, mais comme dans nos milieux, hein, c'est partout. Mais du coup, dans ces vols, il y avait, je dis bien, parce que tout ce qui change maintenant, il y avait un espace prévu pour des choses un peu inhabituelles. Pardon, je suis tournée vers là, excusez-moi. Et donc voilà, donc ça permettait de faire ça. Et puis, ce qui s'est passé, moi, mon dernier vol, je l'ai fait en 2009. Encore, s'il y a des gens qui veulent faire, vous vous mettez en contact avec le département de l'Observatoire de l'espace du CNES. Mais vous n'aurez pas des espaces comme moi j'ai eu des espaces avec mes danseurs. Parce que, en fait, maintenant, l'avion, c'est une sous-traitance, et donc ils vendent les vols. Et donc là, maintenant, on n'est plus dans la même sphère. On est dans la sphère économique. Donc si vous voulez aller voler, vous pouvez. Ça coûte, je ne sais pas, je crois que c'est au doute, ça coûte cher. Et maintenant, ça complique tout, quoi. Il y a toujours ces campagnes de recherche scientifique. Mais du coup, les enjeux, c'est, bah oui, mais les artistes donnent de l'argent, ils n'ont qu'à payer, mais nous, on a besoin de place. C'est que ça devient des enjeux financiers, en fait. Et moi, j'ai pu réussir après. Moi, j'en avais fait aussi beaucoup, mais par exemple, Pauline, qui en rêvait, Pauline, les deux circassiennes avec lesquelles je travaillais, qui rêvaient, Pauline et Jeanne, de voler, ben les deux propositions, pour faire une proposition, c'est 4 ans hein, pour obtenir un vol, mais on n'a jamais réussi à être pris parce qu'en fait, il n'y a plus d'espace. Voilà. Donc on rentre dans une autre sphère. Hein. un peu plus économique et plus raide à ce niveau-là. Quoi. En tout cas, voilà. Mais c'est ouvert pour des gens tout seuls, hein, si vous voulez y aller.
Tu coupais pour la situation.